Trump ne dira pas notre place. Quelles sont les caractéristiques, par exemple, des immigrants africains? Quand vous cherchez, comme je disais au début, 25 ans et au-delà, qui ont un diplôme de licence, de maîtrise de doctorat, c'est l'immigration africaine qui est la plus instruite.
L'une des
vous comprenez? C'est-à-dire qu'en ce qui concerne la compétition dans le marché de l'emploi, nous n'avons pas de complexe. Mais maintenant, ce qu'il faut imaginer, est-ce que nous pouvons créer des conditions pour protéger cet investissement qu'on appelle l'immigration? Et puis la terre qui nous a accueillis, c'est une terre d'immigrants. Et qui est celui-là qui est propriétaire de cette terre? Tout le monde est immigrant.
Parlons d'investissement justement pour les migrants. Calvin Dark, une étude du FWD.US montre que les immigrants, de façon générale, hein, pas seulement les Africains, les immigrants contribuent à hauteur de 17% du PIB des États-Unis, soit 3 300 milliards de dollars. Malgré cela, certains estiment que l'Amérique doit se diriger vers une politique migratoire plus sélective et qui ciblerait peut-être des secteurs comme les nouvelles technologies. Que vous inspire un peu ce débat?
Sélective, raciste, ça dépend de qui parle. Je suis d'accord avec ce que l'ambassadeur a dit. Il faut soutenir les programmes, par exemple, en Afrique, pour améliorer les conditions. Mais l'immigration est liée à toutes ces questions, comme l'investissement. Pourquoi? Si le prochain président ne soutient pas l'immigration de l'Afrique, il va soutenir les programmes en Afrique? Pas du tout. Au moins, Kamala Harris, elle était chargée pour le Border Czar. C'était pas vraiment le dossier. Le dossier, c'était de travailler avec les pays dans l'Amérique latine pour vraiment changer les conditions sur le terrain.
Investir sur place.
Oui, exactement. Je crois que l'immigration reflète les priorités, les principes pour le crime. Sans les immigrés, Donald Trump n'a rien à culpabiliser pour le crime. Alors ça, c'est vrai, ça reflète la direction de ces partis et les positions qu'ils ont.
Alors, sans tarder, on va donner la parole au public. On va donner la parole à une dame d'abord. Oui, bon. Allez-y, madame.
Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Aïssatou Birou Diallo, communément appelée Aïcha Birou. Je suis la fondatrice de Africa Women for Harris, qui était Africa Women for Biden. Comme on dit, chacun a sa manière de voir qu'est-ce qu'on appelle l'immigré. Si on regarde aux États-Unis, juste les Amérindiens qui ne sont pas immigrés. Oui, le rhétorique de Donald Trump fait très mal. Quand tu entends qu'il dise que un frère comme toi et moi et un Américain noir mange le chien, c'est autre chose. Il faut tout le monde accuse la vice-présidente. Oui, elle était chargée de gérer, comme on dit, les bordures de la rentrée de l'Amérique. Mais c'est pas politiquement, ce n'était pas comme ça, comme on nous explique, comme les journalistes nous expliquent, comme monsieur a dit, que c'était de négocier avec les différents gouvernements qui sont sur la bordure de l'Amérique. Et puis, quand on dit l'immigration sahélienne qui vient aux États-Unis, il faut que le gouvernement américain investisse en Afrique pour stopper. Non, c'est nos dirigeants à nous, en Afrique, et nous, les immigrés. C'est pour cela qu'on demande aux Africains d'aller être candidats dans les différentes décisions. Parce que quand tu n'es pas à table, tu ne peux pas décider qui va être secrétaire général, chargé des relations africaines. Donc c'est dans ça que l'Afrique, on pourra, l'Afrique noire, l'Afrique sahélienne, on pourra parler. Si on parle des Nigériens, on parle des Éthiopiens, on parle d'autres communautés de l'immigration qui ont la voix, eux, financièrement, ils supportent un candidat.
D'accord.
Et voilà. Par le vote, ils financent. Donc, on demande à nous, les immigrés sahéliens de l'Afrique, de vraiment se donner les mains et pouvoir savoir c'est quoi notre priorité, comme a dit monsieur l'ambassadeur.
D'accord. Merci, madame Diallo. Nous allons revenir à l'audience dans un instant. Alors, monsieur l'ambassadeur, vous voulez un peu réagir. L'Afrique à la table? Et aussi que l'Afrique puisse quand même investir pour les jeunes et ne pas forcément regarder du côté de l'Occident et accuser l'Occident tout le temps.
Évidemment, écoutez, l'Afrique est le continent le plus riche du monde et nous avons les minerais. Donc si on attend des États-Unis et c'est-à-dire qu'on espère que nos forces valides vont partir de l'Afrique pour venir servir les États-Unis ou créer le continent. On est en train de faire faute pas, qui rejoint au fait la rhétorique des panafricains. Est-ce que vous voyez? Mais la question qui est fondamentale, parce qu'à la fin de la journée, il faut aussi comprendre que, effectivement, les États-Unis ont un rôle à jouer dans ce qui se passe sur le plan global. Donc, nous, qui sommes de la diaspora, moi, je crois qu'on gagnerait plus à influer la politique américaine quand il s'agit de l'immigration. Mais parce que si on ne crée pas le contexte où l'immigration devient obsolète pour nos frères en Afrique, on ne va pas s'en sortir. Donc, c'est à nous de rentrer dans une politique, même si c'est le bras de fer, avec nos dirigeants américains ici, d'accord, pour qu'on change un peu et la façon de voir l'immigration. Et ce qui se faisait avec la vice-présidente, effectivement, en Amérique latine, c'est ce qu'elle faisait. Elle passait de pays en pays, créait des programmes qui permettaient à ces pays de garder leurs immigrés. Donc il faut qu'on refasse ce genre de truc. Ils ont fait le plan Marshall pour les Européens, pour l'Europe de l'Est, quand ils sont sortis, de la situation du communisme. Pourquoi on n'assume pas ça ici aussi pour l'Afrique?
D'accord. Alors, j'aimerais amener un peu New York dans cette discussion sur l'immigration. New York, une ville qui a accueilli récemment des centaines de milliers de migrants, justement. Est-ce que quelqu'un à New York aimerait intervenir?
Voilà. Je m'appelle Moussa Luc Sangaré. Je pense que concernant l'immigration, les gens, beaucoup se trompent. Parce que si on doit parler de ça aujourd'hui, je pense qu'on va passer un bon moment à en débattre. Moi, je suis immigré et je veux que les immigrés viennent, je veux que les Africains viennent. Mais d'abord, c'est vraiment très dangereux pour notre jeunesse, parce que c'est la crème de notre jeunesse qui vient. Ce n'est même pas le problème. Mais ce que moi je reproche à l'administration Biden, c'est que autant Trump, il avait fait un accord avec les Mexicains qui ont gardé la frontière et il y avait très peu d'entrées aux États-Unis. Malheureusement, dès que Biden a été élu, juste au moment, voilà, juste avant l'inauguration, on a vu des caravanes, des dizaines de milliers d'immigrés qui convergeaient vers la frontière et ils les ont laissés entrer. Avant, Trump disait au Mexique que les demandes se font au Mexique avant d'entrer aux États-Unis. Mais quand il est arrivé avec un décret, avec un décret présidentiel, il a annulé tout cela et ils ont laissé entrer des millions, des dizaines de millions d'immigrés ici aux États-Unis. Alors que nous-mêmes qui sommes ici, nos problèmes ne sont pas résolus. Donc moi je pense que c'est ce que Trump avait dit en 2016, au moment où il battait campagne. Et je pense que les immigrés africains devraient soutenir Trump. Parce qu'il dit, mais quand ta maison, le toit de ta maison est troué et que l'eau entre, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas mettre les meubles d'abord avant de coller, avant de réparer le toit, ou bien tu vas d'abord réparer le toit avant de mettre les meubles? Bien sûr, le système d'immigration aux États-Unis est un système très, 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 je peux dire, complètement débordé. Et pour le faire, Trump a dit, mais il faut d'abord résoudre, essayer de limiter le nombre d'entrées. Et puis ceux qui sont ici, qui vivent ici depuis 20, 30 ans, qu'on arrive à trouver une solution à leurs problèmes et qu'on arrive au moins à les régulariser au lieu de faire entrer des flots d'immigrés alors qu'on n'arrive même pas. L'immigration, le service d'immigration est débordé. C'est ça le problème. Donc, moi je pense que Harris, elle a été désignée comme le César de la frontière, mais elle n'a absolument rien fait. Et l'administration Biden a laissé entrer des millions et des millions, alors qu'aujourd'hui, New York est débordé. Ici, par exemple, je vois des gens de l'Afrique de l'Ouest, au Sénégal par exemple, il y en a qui ont vendu leur business, qui ont vendu leur maison pour venir, parce qu'on leur a montré que ici c'est l'Eldorado. Mais quand ils sont arrivés ici, ils sont devenus des mendiants. Donc, est-ce que le système-là arrange l'Afrique? Ça ne nous arrange pas. Parce que nous-mêmes, nous qui sommes ici, notre problème n'est pas résolu. Ouais. Donc, et on laisse entrer des gens. Ce n'est pas normal.
D'accord. Merci beaucoup. On reviendra sur New York dans un moment. Je vais peut-être donner la parole à professeur Moulumba pour réagir à ces déclarations de, oui, crois, monsieur Sangaré.
Oui. Je partage les soucis de notre ami, mais aussi il y a un problème de désinformation. Moi, je me réfère à ce qu'ils ont mis dans leur programme, notamment le camp de Trump. Il y a un point qui parle de mass deportation, c'est-à-dire en français, déportation de masse, donc des gens qui doivent quitter le pays. Mais ce n'est pas la première fois qu'on le fait. On a déjà essayé ces expérimentations avant. Il y a même des innocents.
Mais est-ce que vous comprenez sa préoccupation? Il y a beaucoup des millions de migrants qui sont là sans papier. Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas essayer de les régulariser aussi?
Non, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Mais quand on veut les régulariser, on ne peut pas au même moment créer un autre problème. Parce que quand on veut déporter massivement, est-ce qu'on a la police pour les faire? Est-ce qu'on va utiliser l'armée? Est-ce qu'on a l'argent? On va aller de porte en porte? Comment est-ce qu'on va les faire? Alors ça peut créer des chaos où les familles sont séparées. D'accord. Parce que dans le passé, quand on a fait ce genre de départ massif sur les Mexicains, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a vu des Mexicains, Américains, qui ont été déportés vers le Mexique.
D'accord. L'ambassadeur veut réagir rapidement avant qu'on ne retourne au public ici.
L'immigration, moi je crois que même ce débat ne devrait pas être aussi consistant. Parce que quand on regarde la masse d'immigrés, les Africains ne font qu'une fraction de ce groupe-là. Donc ce n'est pas le problème essentiel de l'Africain, de la diaspora africaine. Donc je voulais remettre ça dans ce contexte-là.
D'accord. Alors maintenant, notre ami Joli Boubou pourrait maintenant venir ici et se présenter.
Merci. Moi, je m'appelle Étienne Anani. Je suis un activiste togolais. Je vis ici, ça fait pratiquement 28 ans. Immigration, immigration, immigration. Pour moi, l'immigration, si je prends le contexte africain, l'immigration, en réalité, vide l'Afrique de ses bras valides. Je me suis posé toujours la question, est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore nécessaire qu'on nous envoie des piscons en Afrique?
Mais quand on entend ce genre de discours, quand on tient ce discours aux jeunes Africains, oui, la réponse qu'on a souvent, mais qu'est-ce que vous faites là-bas?
Justement, et je suis d'accord sur ça. La réponse qu'on a, c'est que ceux qui sont sur le terrain aujourd'hui, ceux qui dirigent l'Afrique aujourd'hui, ne veulent même pas favoriser notre retour en Afrique pour investir en Afrique. Et donc, quand nous parlons de l'immigration aujourd'hui, en réalité, ce n'est pas le problème des Américains. C'est le problème de nous, les Africains, d'abord. Et le problème des Africains pour avoir des gouvernements qui pensent au bien-être de leur peuple. Comme quelqu'un le dit, ça commence à venir. Ça commence à venir, mais c'est lent. Aujourd'hui, moi, j'étais en 2000, je ne sais plus en quelle année, j'étais à la Maison Blanche. Et je me battais pour le cas du Togo. On me demandait, est-ce que tu es prêt à rentrer? Je dis que si je peux rentrer aujourd'hui, ça qu'on me tue. Quand je quitte la Maison Blanche, je vais à l'aéroport, je rentre au Togo. Donc il faut qu'on encourage plutôt, hein, nous qui sommes dans la diaspora. Je me rappelle quand Obama était président, on fait venir de l'Afrique des jeunes talents. Non, au contraire, on devait organiser pour que la diaspora, nous qui sommes ici, on aille en Afrique.
D'accord.
Pour quand même investir en Afrique. Mmh. Et là, ça peut freiner les gens de venir. D'accord. Vous voyez, quand je prends l'avion pour rentrer en Afrique, je vois beaucoup de Chinois. Nos terres aujourd'hui sont achetées par les étrangers. L'Afrique n'en partait même plus aux Africains. Alors, d'accord, comment voulez-vous que les Africains ne fuient pas l'Afrique, mmh, pour venir? Et quand je viens ici, ça profite à qui?
D'accord.
Ça profite à l'économie américaine.
Merci. Je crois qu'il y a madame aussi. Ce qu'on va faire, on va enchaîner. Allez-y.
Bonsoir. Florence Fadiga, gabonaise, vivant aux États-Unis depuis déjà plus de 20 ans. Moi, en fait, ma préoccupation principale quand on parle de l'immigration, c'est que le problème de l'immigration illégale en général ne concerne pas les Africains. La majorité d'entre nous, la raison pour laquelle on est un groupe aussi éduqué, c'est parce qu'on est venu pour les études. Donc moi, personnellement, je favoriserais toujours le candidat qui semble apporter un path à ceux qui viennent légalement pour pouvoir rester ici. Et je trouve que les démocrates, je comprends, c'est un problème américain qui est là, l'immigration illégale, mais les démocrates ne mettent pas assez l'accent sur comment permettre à ceux qui viennent ici pour étudier de rester plus facilement. Beaucoup maintenant vont en France, au Canada, parce que là-bas, il y a l'accès à la résidence une fois qu'on finit les études. Ici, on vient, on investit dans les universités parce que c'est beaucoup d'argent de faire des études ici. Et personne ne pense à ces étudiants internationaux-là, comment leur permettre de rester. Il n'y a que Donald Trump qui en a parlé. Je ne suis pas républicaine, je ne suis pas démocrate, je suis indépendante, mais je voudrais juste qu'on se rappelle de comment on est arrivé ici et duquel des candidats parlent de la personne qu'on était quand on est arrivé ici.
D'accord. Et je me retourne du côté de Calvin pour réagir un peu à ce qu'on a entendu jusque-là.
Oui, je veux dire que bien que cette proposition de déportation en masse touche la communauté hispano-américaine, les politiques de Trump touchent les immigrés africains parce qu'il a dit il va changer le statut légal des immigrés africains qui sont ici parce qu'ils sont victimes de conflits dans leur pays. Par exemple,
à l'Haïti. TSP, par exemple.
Oui, exactement. Alors, c'est pas juste les gens qui ont croisé la frontière sans papier. Alors, il faut bien préciser quand Donald Trump a dit qu'il veut les good immigrants. La majorité de ces good immigrants viennent des pays de l'Europe et il y a très peu des immigrés de l'Afrique qu'il va accepter. Ça, c'est vrai.
Vous voulez réagir, ambassadeur?
On va retourner
à l'audience dans un moment.
Peut-être que ce qu'il dit, effectivement, a de la valeur. Et parce que quand on parle de good immigrants ou bien les bons immigrants, c'est qu'est-ce qui définit un immigrant, un bon immigrant, un mauvais immigrant. Bon, mais le problème, c'est qu'on s'attarde trop sur la notion même d'immigrant en tant que et qui fait mieux, qui fera mieux. Parce que moi, je suis sûr, la politique d'immigration des États-Unis pour les 70 dernières années n'a pas vraiment changé. Ce qui a changé, c'est les petits ajustements ici qui favorisent certains là-bas. Donc moi, je crois que ce qui est dans l'intérêt essentiel de l'Africain, ce qui est dans l'intérêt de la diaspora, c'est comment est-ce qu'on peut mettre la pression sur l'administration, quelle qu'elle soit, pour qu'on regarde l'immigration comme un problème à la source et qu'on mette en place les politiques qui permettent aux Africains de créer les conditions chez eux pour qu'ils ne viennent pas ici. Et d'accord. Pour répondre, très rapidement, pour répondre au monsieur qui a parlé par rapport à cette situation de... Je crois que j'ai même perdu le train. Je vais revenir dessus tout à l'heure.
D'accord, on va donner la parole à madame, peut-être. Rapidement, on va essayer de prendre le maximum d'intervenants et on va retourner à New York dans un instant aussi. J'espère qu'on aura le temps, si on peut aller un peu vite.
Oui. Bonsoir tout le monde, c'est Mariam Sidibé. Je suis aux États-Unis, ça fait maintenant 20 ans. Mais vraiment, ce que je voudrais dire, c'est que je ne vais pas dire pour qui je vais voter, mais c'est quoi notre intérêt ? Nous, en tant qu'Africains, ici, aux États-Unis. Parce que ce que nous faisons ici, ça aide le pays. Comment est-ce qu'on peut se regrouper pour pouvoir mettre en place des politiques pour aider ces leaders, pour nous aider à défendre notre pays? C'est-à-dire, si les enfants qui viennent pour l'immigration, ils vont rester un peu, ils vont étudier, après rentrer. Ils ont déjà la connaissance là, parce qu'on vient ici pour apprendre. On a les connaissances qu'on ramène chez nous pour investir. Est-ce qu'on peut s'entendre pour aider ces leaders pour pouvoir nous aider dans l'immigration? Quiconque vient, laissez l'immigration, laissez tout le monde rentrer, s'il vous plaît. C'est un pays libre. C'est un pays, personne l'Amérique n'appartient à personne, en fait. Donc tout le monde vient, on apprend, on se forme et on rentre et pour se former ici et aller investir dans notre pays. Alors, donc moi vraiment, ce qui est important, c'est comment est-ce que nous, en tant qu'Africains, on peut s'ajouter avec ces leaders que ce soit démocrate ou et républicain, pour défendre nos intérêts.
J'aimerais enchaîner avec New York rapidement avant de revenir ici.
Ok, je voudrais dire quelque chose. Donc, je m'appelle Zenaba Traoré. Je voudrais rebondir sur ce que M. l'ambassadeur a dit. Il faudrait que les Africains, parce qu'on parle des Africains ici, de l'immigration africaine, il faudrait que nous sortions de ce paradigme qui consiste à ce qu'on vient ici, c'est juste pour des raisons économiques et qu'on ne s'implique pas dans la vie politique ici. Une fois qu'on est devenu citizen, donc américain, il va falloir donc jouir de tous les droits que la Constitution nous donne. Donc le droit de vote, le droit de s'impliquer dans la vie publique, de faire ce qu'il faut. Et ainsi, nous pourrions influer sur les dirigeants de ce pays pour qu'ils reconnaissent une place à part entière aux Africains. En Afrique, par exemple, on vote parce que celui-là, il est mon oncle, il est de mon pays, de mon village, de mon ethnie, ainsi de suite. Et nous avons transposé cette façon de voir ici en Amérique, ce qui fait que nous ne nous impliquons pas. Même dans le panafricanisme, on a beaucoup à faire, mais on ne voit personne. Donc il faut que les Africains changent.
D'accord, merci beaucoup. Je ne sais pas si on a le temps de prendre une dernière personne dans le public. Oui, allez-y, monsieur.
Voilà, je suis Ntal Ali Massi. Je suis le président émérite de l'Association nationale des catholiques africains aux États-Unis. Et je m'occupe pour le moment de l'advocacy pour cette organisation. J'ai travaillé sur cette question d'immigration. Je suis ici aux États-Unis depuis 88. Et j'ai travaillé sur cette question et avec les démocrates à la Maison-Blanche et les républicains à la Maison-Blanche. Lorsque Trump avait dit qu'il voulait une immigration bonne, il avait bien cité les pays scandinaves. Il veut de ces gens-là. Il ne veut pas des Noirs ici. Lorsque maintenant il parle beaucoup de la RDC et qu'il parle de ceux qui viennent des prisons, Trump est en train de revenir à ce qu'il dit. C'est que les gens qui viennent empoisonner le sang américain. Mobilisons-nous. Cessons de penser que ça, c'est pour les autres. Trump a bien dit qu'il va changer les statuts.
Voilà, merci.
Des ceux qui ont maintenant qui sont déjà naturalisés. Il faut y penser.
Merci
si vous n'y
beaucoup.
Pensez pas,
Moi, j'aimerais qu'on termine sur. Voilà, où est-ce qu'on va rapidement, 30 secondes, la diaspora africaine au-delà de 2024, rapidement.
Je crois que déjà, en 2024, la diaspora africaine doit voter en masse. Quel que soit le candidat pour lequel vous avez choisi, il faut qu'on vote en masse. Et puis, après 2024, il faut qu'on aille pétitionner. Et c'est la Constitution nous donne ce droit d'aller voir ceux qu'on a élus pour les obliger dans la direction qu'on,
D'accord.
qu'on aimerait qu'ils
partent. Oui, nous sommes une diaspora avec beaucoup d'atouts. Mais nous n'utilisons pas ces ressources pour nous organiser en diaspora vraiment panafricaine. D'accord. Alors, il faut qu'on se réveille, qu'on se dise là où les décisions se prennent, nous voulons être présents. Nous sommes dans la tranche de ceux qui gagnent assez, nous sommes dans la tranche de ceux qui sont très éduqués, nous n'avons pas de complexe. Si vous regardez dans la D'accord. salle, il y a des gens qui ont formé de blancs dans ce pays. D'accord. Et moi, je fais partie de ces clubs-là. Donc, il n'y a pas de complexe.
Voilà. Monsieur Calvin Dank.
Oui. Je crois que soit républicain ou démocrate, il faut convaincre nos leaders de que l'Afrique soit une priorité politique. Et deuxièmement, je crois que pour toutes les questions immigration, économie, pour les Afro-Américains et pour la diaspora, la peau, ça signifie beaucoup. Alors, nous sommes dans le même bain, il faut agir comme ça.
Voilà, merci. Nous arrivons au terme de cette discussion sur la diaspora africaine et la présidentielle américaine du 5 novembre 2024. Nous remercions nos panélistes et notre audience ici à Washington et à New York. Merci de nous avoir suivis à travers nos chaînes partenaires en Afrique, mais également sur notre site voafrique.com et sur nos plateformes digitales. À très bientôt sur VOAfrique.